ghetto par le ghetto, donc les blacks avec les blacks, les beurs avec les beurs.
Je voudrais avoir des droits.
On peut pas être dans la misère et demander d'être citoyen.
La société n'appartient à personne, elle nous appartient.
Bonjour, Alternative FM vous propose Liberté, Égalité, Fraternité, le magazine d'information sociale, culturelle, économique et politique de la rédaction.
Depuis le début du confinement, Véronique prend ses marques. Elle fait l'école à la maison pour sa fille de 7 ans et en parallèle, elle poursuit son activité professionnelle en télétravail. Pas évident de faire en sorte que ses élèves décrocheurs restent sans contact et sans activité.
Nous, on a l'institutrice de la petite qui nous donne des instructions chaque soir. Avec le travail à faire et donc on était repartis tous les parents avec le cartable rempli de tous les cahiers, les fichiers de mathématiques, le fichier de français, etc. Et donc elle suit son programme, elle nous envoie un mail le soir avec le travail à faire pour le lendemain et les devoirs. Donc moi je suis vraiment les consignes de la maîtresse, mais j'ai pour le moment, elle n'a pas fait de réunion virtuelle ou de choses comme ça. C'est vraiment sur des supports papier, comme elle ferait, je pense, à l'école, en fait.
Mais est-ce que pour votre enfant, le fait d'être à la maison, avoir l'école à la maison, c'est un peu comme des vacances scolaires ? Comment est-ce qu'elle vit ça ?
Alors, au début, elle était très, très contente. Je pense qu'elle est plutôt contente sur l'aspect purement scolaire, parce que, bah, du coup, elle a mon attention tout à elle et le temps est plus court en fait d'apprentissage. On va plus vite en tête à tête que forcément quand ils sont 25 dans une classe. Là, les difficultés qui se font sentir pour elle, c'est le fait d'être isolée sans ses camarades, quoi, de pas être justement dans une classe, de pas échanger avec les autres. Et ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Donc, je pense pas qu'elle vive ça comme des vacances, quoi. Je pense qu'elle a bien compris quand même que la situation était très particulière, quoi.
Alors, l'objectif numéro un des établissements est la continuité de l'enseignement pédagogique.
Ouais.
Un lien qui passe par l'outil numérique, mais la réussite de l'école à la maison dépend aussi des parents. Pour les parents qui ne sont pas à l'aise avec Internet, qui ne disposent pas d'ordinateur ou d'imprimante, ceux qui vivent dans des villages ou aux connexions Internet aléatoires, comment est-ce qu'ils peuvent faire ?
Ben c'est justement tout le problème. Je travaille à l'éducation nationale, donc je suis aussi de l'autre côté. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ne sont pas équipés d'ordinateurs, ou bien il y a un ordinateur pour 4-5 enfants. Donc évidemment, ça doit tourner dans les foyers et c'est très compliqué, notamment pour des lycéens qui ont beaucoup de devoirs à faire, en fait, parce que ils ont beaucoup de professeurs qui transmettent du travail. Et ça devrait les occuper normalement toute la journée, sauf qu'ils n'ont pas accès toute la journée à l'ordinateur. On a entendu le ministre dire que tout était prêt. Tout n'était pas prêt. Il y a aussi des serveurs, les serveurs qui plantent. On essaye d'organiser des choses aussi pour ceux qui sont équipés, des cours en ligne, des classes virtuelles. La connexion est très mauvaise, ça coupe toutes les 5 minutes, donc c'est très compliqué. Et là, il y a eu des consignes qui sont passées, mais qui sont très discutées par les enseignants. Notre ministre nous a demandé de transmettre des cours papier à nos établissements pour que les établissements, eux, les transmettent aux familles qui se présenteraient. Mais c'est vrai que moi, il y a beaucoup d'enseignants qui sont contre. Moi, je partage aussi leur opinion parce que ça va complètement à l'encontre des consignes de confinement. C'est-à-dire que là, on est en train de demander aux professeurs de se rendre dans les établissements, aux familles de se déplacer également. Donc c'est très compliqué, c'est hyper compliqué parce que moi je pense à mes élèves et évidemment j'ai pas envie de les laisser au bord de la route, qui n'est pas de travail, mais d'un autre côté on est dans une situation exceptionnelle et je pense que le ministère de l'Éducation nationale n'était pas prêt pour cette situation, je pense qu'il faudra bien l'avouer un moment, l'admettre. Donc je pense que ça met en avant toutes les inégalités qu'on connaît, hein, qui ne sont pas nouvelles, qui n'arrivent pas avec le coronavirus. C'est-à-dire, on n'est pas tous égaux devant, devant les apprentissages et les enseignements. Là, ça, voilà, il y a des inégalités. J'ai peur qu'il y ait des gamins qui en pâtissent énormément. Ça fait très mal au cœur, mais on n'a pas de solution miracle non plus. Là, quand une famille n'est pas équipée d'un ordinateur, on ne peut pas faire grand-chose. On a aussi, enfin moi j'ai des jeunes aussi qui qui sont mineurs isolés, qui sont dans des, au mieux dans des foyers. Il y en a qui sont à la rue. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas aussi d'inquiétudes qu'on peut avoir pour nos élèves qui ont des difficultés à se nourrir, à se loger. Et également à faire l'école. Enfin voilà, ça met en avant tout un tas de dysfonctionnements de notre société aussi, quoi, malheureusement.
Avez-vous applaudi hier soir à 20h?
Alors ouais, nous avec ma fille on applaudit. Alors moi je suis dans le Val d'Oise. Nous on est à la fenêtre à 20h, on applaudit les soignants, on applaudit tous ceux qui travaillent, hein. On applaudit les caissières, on applaudit les éboueurs, on applaudit les policiers, on applaudit les profs qui bossent. Hein, il ne faut pas croire qu'on est chez nous et qu'on ne fait rien. On applaudit tout le monde et on les remercie. Mais on n'est pas encore très nombreux, mais on ne lâche pas l'affaire quand même. On ne lâche rien et bah, je pense très fort à tous ceux qui prennent des risques.
Dans le quartier du village, comme partout en France, la solidarité face au coronavirus s'organise. Depuis le début de la pandémie, Nassera s'inquiète pour ses proches. Pendant ses journées, elle lessive, prend des nouvelles par téléphone et par Skype et vient en aide aux personnes les plus vulnérables du quartier.
J'étais étonnée. Le jour où je ne suis pas sortie, j'entendais des applaudissements. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mise à la fenêtre et puis j'ai vu que les gens applaudissaient. C'était quand même quelque chose, surtout sur Persan et le village.
D'accord.
Je me suis dit, il n'y a pas de contact. Il y a quand même pas mal de personnes âgées. On les voit plus. On n'a même plus le droit de les approcher, je veux dire ça. C'est pour ça que je me suis dit, comment ils vivent, ces personnes âgées? Les personnes seules, surtout. J'ai une amie qui devait faire ses courses, mais elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis, déjà. Et je devais l'emmener. Et là, on m'a dit, surtout pas. À deux, dans la voiture, c'est 135 euros. J'ai dit, mais c'est une blague. Elle me dit, non. J'ai dit, mais elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis, elle est seule avec ses enfants. Comment elle fait? C'est 135 euros, elle m'a dit. Je suis partie toute seule. Bon, elle m'a donné sa liste.
Vous êtes partie faire les courses pour vous et pour votre voisine. Pour respecter les gestes barrières, vous avez préféré prendre sa liste, aller faire ses courses, vous, toute seule, vos courses en même temps. La pénurie de masques n'épargne pas le Val d'Oise. Infirmière libérale, la fille de Nassera vit aujourd'hui une situation pas facile. Elle fait partie des soignants qui peinent à trouver des masques chirurgicaux.
Elle est infirmière libérale, mais elle est du 93, mais elle travaille dans le 95.
D'accord. Est-ce que vous l'avez eue au téléphone? Est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce qu'elle a les protections nécessaires, les masques, les gants?
Non. Elle n'a pas tout ça, quoi.
Comment elle fait? Est-ce que vous l'avez souvent au téléphone? Vous devez être inquiète.
Oui. Ah bah oui, quand même. Parce qu'au début, les quatre premiers jours, elle a pu travailler... les masques qui lui restaient, et je crois deux jours, elle m'a dit, j'ai pas de masque, j'ai des patients qui toussent, je sais pas quoi faire. Elle dit, il me reste des gants, mais les masques, j'en ai pas. Mais heureusement qu'elle a trouvé une patiente qui lui a donné quelques masques. Elle m'a dit, ils sont quand même sympas. Et là, elle a fait une demande, justement, pour avoir des masques FFP2.
La couture devient un sport national. De l'Isère au Val d'Oise, les fabrications de masques à domicile se multiplient. Une ex-mécanicienne en cuir et peau de Daumont s'est débrouillée avec quelques bandes de tissu et des élastiques pour fabriquer 150 masques en tissu pour les gendarmes et les caissières. Ils pourront ainsi s'équiper en attendant de recevoir ceux qui ont été commandés. Ces masques ne sont pas aux normes, mais ils permettront à une personne potentiellement contaminée par le Covid-19 de ne pas laisser échapper de postillons. Aïcha n'a pas attendu le confinement pour venir en aide aux plus vulnérables. Elle appelle les personnes âgées du quartier et récupère leurs médicaments.
Et comme elles sont âgées, elles ont peur de contaminer, on ne sait jamais, on ne peut pas savoir. Ça fait qu'ils n'ont pas de contact réel avec leurs enfants, c'est juste vu. Et j'en ai une ici, la personne, au village aussi, donc je l'appelle presque tous les jours. Et là, elle m'a dit, j'ai pas de médicaments, je suis très fatiguée, je ne sais pas sortir. Et je lui dis, je viens, donc je fais mon attestation, parce que je suis danse, donc c'est par écrit. Et je suis allée la voir. Elle m'a jeté par la fenêtre, deux ordonnances, la carte vitale. Je suis allée au pharmacien, je lui ai récupéré ses médicaments et je lui ai pris dans la poste. Je lui ai pesé, je suis partie.
Vous savez que ça va être prolongé, le confinement.
Oui, oh là là.
Vous êtes inquiète ?
Bah oui, quand même. Hein. Mm-hmm. Moi, je pense plutôt aux personnes âgées et les jeunes. Enfin, nous, quand même, on arrive à supporter, à rester à la maison, on se trouve des occupations à la maison. On n'a pas fait, on refait le ménage à fond. On fait plein de choses. Moi, je fais de la couture, donc je me permets de coudre et tout ça pour mes petites filles. Mais moi, je pense aux autres personnes qui n'ont aucune activité. C'est ça qui est dur. Et ceux qui sont toutes seules, en plus. Moi, je pense que c'est ça qui est plus dur. Il y a de la solidarité ici au village. Et si je sais qu'il y a de la solidarité, parce qu'on n'a pas entendu une personne dire oui, voilà, il n'y a personne qui peut m'aider, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir m'aider? Je pense qu'entre voisins, il y a de la solidarité. Ce que j'aime bien aussi, c'est à 20h, précise.
Oui.
Alors tout le monde sort. Alors nous, comme on est dans place à la rencontre, vous voyez, ça fait un carré.
Oui.
Vous voyez, hein, et on fait la fiesta village en fait. Et alors à 20h, tout le monde sort. Et ils applaudissent et ils crient. Pour les infirmiers, les gens de l'hôpital, plus pour les gendarmes aussi quand même. Hein. Et on entend des youyou, et on entend des... C'est magnifique ce soir à 20h.
D'accord.
Il y a de plus en plus de gens. Avant, c'était un petit peu, et maintenant, comme hier, on était beaucoup quand même.
Hier soir, vous étiez beaucoup?
Ah oui, hier, c'était plus qu'avant-hier, et je pense au bout des jours, voilà, les gens regardent par la fenêtre et applaudissent, et crient.
Vous êtes dans quel bâtiment?
Alors moi, je suis au-dessus de l'Agora. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est surtout pour les jeunes. Ne sortez pas. Ne prenez pas ça à la légère. Regardez les informations, regardez ce qui se passe. Même pour un médecin, il y a des médecins. On a 5 médecins qui sont décédés du coronavirus. Ils le combattent. Et regardez ce qui s'est passé. Alors ne prenez pas ça à la légère. Restez chez vous. Faites des occupations. Si vous sortez... Sortez, faites une attestation, faites une petite balade et rentrez. En tout cas, on remercie tous les gens des hôpitaux, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et les gendarmes. Et puis j'espère qu'on arrivera à combattre quand même cette maladie.
Depuis le début de l'épidémie, par mesure de précaution, le centre communal d'action sociale est fermé au public. Toutefois, la continuité du service est assurée via une plateforme téléphonique. Le CCS propose un service de portage de repas et de courses à domicile pour les personnes âgées isolées. Afin de rompre l'isolement et apporter des services de première nécessité, M. Fahem, directeur du CCS de Persan, invite les habitants les plus vulnérables à composer le numéro d'urgence mis en place 01 39 37. 48 89. Chaque jour, le service se mobilise, reste à l'écoute, fait le point sur la situation pour anticiper les évolutions et ajuster les dispositifs si besoin afin d'apporter aide et soutien.
Dans la mesure du possible, on répond à l'ensemble des urgences, notamment des urgences sociales. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler. Donc le numéro de téléphone qu'on a mis en place en cellule de veille, c'est le 01 39 37 48 89. 01 39 37 48 89. Et donc, c'est un numéro qui est accessible 24 sur 24, 7 sur 7 pour les urgences uniquement. Et sinon, aux heures habituelles de fonctionnement du CCS, c'est-à-dire de 8h30 à midi, de 14h à 17h30. Donc, pendant, du coup, cette période de crise sanitaire et de confinement, on a maintenu l'ensemble des services dédiés à la personne. Le portage de repas à domicile donc qui est servi tous les midis, du lundi au vendredi, et puis pour certaines personnes qui l'ont souhaité le week-end. Alors il y a un certain nombre de conditions à remplir, il faut avoir plus de 60 ans ou être bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc il reste encore des possibilités pour des personnes qui souhaiteraient avoir le repas livré le midi, donc se rapprocher du CCS au numéro de téléphone que j'ai transmis. On a maintenu les services d'aide à la personne pour les personnes qui étaient déjà bénéficiaires de ce service, donc tout ce qui est aide ménagère. Et on a développé un service d'aide aux courses pour les personnes les plus isolées, les plus vulnérables, je dirais. Donc il y a la possibilité que le CCS fasse les courses pour ces personnes selon une liste préétablie avec les produits, de première nécessité, d'hygiène. Donc il y a une liste préétablie qui est déposée chez les personnes, qu'on récupère le lendemain, et les courses sont livrées. Donc c'est un service entièrement gratuit, contrairement aux autres, où il y a, comme je disais, des critères et des tarifications à mettre en œuvre, que je ne vais pas détailler là à l'antenne, mais les personnes qui sont intéressées par ces services peuvent se rapprocher du CCAS. Il y a une cellule de veille active qui est mise en place et en fonction de l'actualité, en fonction des nouvelles recommandations, on s'adapte. Donc il y a une équipe dévouée et volontaire d'agents du CCL qui sont là au pied d'œuvre depuis le début de la crise. Et donc je tenais à les remercier et à les encourager davantage parce que on sait que ça va malheureusement très certainement durer encore quelques semaines. En tout cas, ce sont des personnes qui ont souhaité de même continuer à œuvrer pour les personnes qui sont les plus isolées et pour maintenir les services de première nécessité qui sont liés à l'alimentation et à l'aide à la personne. Même pour les urgences sociales, c'est-à-dire s'il y a vraiment des gens qui sont en difficulté financière ou autre, alors on ne pourra pas forcément répondre à tout, mais en tout cas, on pourra réorienter en fonction des situations.
Le Val d'Oise a été le premier département de la région à être touché par l'épidémie de coronavirus. Pour répondre à l'augmentation massive des cas attendus cette semaine, des professionnels de santé et des élus se sont mobilisés pour ouvrir un centre d'urgence dans un gymnase de la ville de Taverny ce lundi 23 mars. Une initiative qui a eu l'aval de l'ARS, Agence régionale de santé et l'Union régionale des professionnels de santé. L'objectif étant de soulager les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes. Ce centre d'urgence installé dans le gymnase municipal de Taverny reçoit depuis ce lundi les malades suspectés de Covid-19 envoyés par le 15 et les médecins généralistes du secteur. L'enjeu majeur repose désormais sur la mobilisation individuelle de chacun pour lutter collectivement contre la propagation du virus en respectant le dispositif de confinement mis en place. Sauvez des vies, restez chez vous.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vois, c'est toi qui regarde, c'est toi qui pense, c'est toi qui agis, c'est toi qui...
D'accord, ça se discute.
Tous les jours à 10h et 15h sur Alternative FM.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère ?